une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Et bienvenue à tous et à toutes dans cette apérophonie. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Laure Limongi. Laure Limongi est écrivaine, autrice d'une dizaine de livres entre fiction, essais et poésie, et aussi créatrice de performances littéraires, la dernière en date, Le service des panacées, où elle prescrit des livres comme des médicaments. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir.
Ben, merci à vous.
Et ce soir, nous sommes du coup en co-animation avec Nisrine.
Bonsoir.
Et Oscar, la technique. Merci Oscar. Alors, vous êtes donc invité dans le cadre du Printemps du Livre, le Printemps du Livre qui a lieu depuis le 2 et qui se poursuit jusqu'au 6 avril, pour présenter notamment votre dernier roman, L'Invention de la mer, qui est paru cette année aux éditions Le Tripode. Alors, ça tombe bien et on comprend bien pourquoi c'est Le Tripode qui vous a édité, parce que votre livre est un ovni littéraire. Comment vous, est-ce que vous le définiriez entre science-fiction, essai écoféministe, utopie futuriste?
Alors moi, j'ai tendance à pas trop définir les choses. J'avoue, c'est sans doute pour ça que mes livres sont tous assez différents. J'essaye à chaque fois de trouver une forme qui va correspondre à ce que j'ai envie de développer. Et là, en l'occurrence, il y a eu des éléments d'anticipation qui sont mis en place, effectivement, des éléments écoféministes, beaucoup de polyphonie qui était inhérent aux propos que je voulais mener, c'est-à-dire essayer de nous projeter un peu plus loin. Je pense que l'origine de ça, c'est sans doute, comme beaucoup, une sorte d'angoisse existentielle liée au changement climatique, mais que je voulais transformer en quelque chose, si ce n'est de positif, en tout cas de vivant, et d'y mettre de la joie, de la réflexion et voilà, en tout cas de la pensée, plutôt que ça soit quelque chose de paralysant, par exemple. Donc tout ça, ça m'a amené à projeter dans une centaine d'années, à imaginer des mutations, des hybridations. Donc voilà, tout ce que vous avez dit est très juste, mais c'est vrai que moi, en tout cas, quand j'écris, je me pose pas des questions en termes génériques.
Alors, pour en savoir un petit peu plus et mieux comprendre la suite de nos échanges, mais sans trop en dire pour nous donner envie d'aller voir le livre, est-ce que vous pourriez nous dresser le décor un peu de ce dernier roman?
Alors, le point de départ, le premier personnage qu'on découvre, c'est Violetta Benedetti Ogundipe, qui est une chimère, c'est-à-dire un être hybride entre être humain et poulpe, et qui nous écrit depuis, non pas un espace, mais un temps, enfin elle est aussi depuis un espace, mais surtout depuis un temps futur, donc on ne comprend pas très bien comment ça peut nous arriver, mais elle essaie d'expliquer les choses. Et elle nous écrit pour nous expliquer que, voilà, dans 100 ans, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que le grand emballement, ce qu'elle appelle le grand emballement, a eu lieu, donc effectivement, catastrophe climatique, réchauffement, virus aussi. J'ai commencé à écrire ce livre quand on était en pleine pandémie, ça m'a sans doute fait penser à ça. Et que la solution qu'on a trouvée pour sauver quelque chose de l'espèce humaine, c'était l'hybridation avec des espèces marines. Et qu'en faisant ça, on a découvert que non seulement tous les animaux avaient un langage, mais ils avaient aussi des formes littéraires et artistiques. Et donc elle se présente un peu comme l'éditrice du livre qu'on lit. Elle, en tant que chimère poulpe, elle est évidemment très intelligente et elle se dit spécialiste des langues décédées, c'est-à-dire de nos langues, et de l'opso humain, donc ce que nous sommes nous aujourd'hui. Et donc elle est passionnée de ces nouvelles formes littéraires artistiques. Elle a aussi une émission de radio, puisque tout ce qui est de l'ordre de l'image s'est effondré, mais reste l'onde. Et donc elle reçoit ses auteurs et ses autrices, comme vous le faites, dans son émission. Et elle parle de leurs livres. Et donc elle présente deux manuscrits chimères, donc deux manuscrits de ces êtres hybrides. Un manuscrit cétacé, avec une autrice qui s'appelle Gina de Galen, et un manuscrit crustacé avec Menip Tsalé. Et à chaque fois, donc on a vraiment accès à sa traduction, hein, puisqu'évidemment on ne peut pas avoir accès à la langue originale, de ses formes, et elle écrit des postfaces à chaque fois, ce qui permet d'expliquer ses choix de traduction, et ce qui, moi, m'a permis évidemment de donner tous les éléments de recherche que j'ai accumulés pour écrire ce livre, qui était passionnant, et donc voilà, donc de les partager aussi avec le lecteur, la lectrice.
Alors avant de poursuivre l'exploration sous-marine avec vous, Laure Limongi, on va écouter un petit extrait de Chris Marker, La baleine.
Vive la baleine.
Vive.
Des siècles, les hommes et les baleines ont appartenu à deux camps ennemis qui s'affrontaient sur un terrain neutre, la nature. Aujourd'hui, la nature n'est plus neutre. La frontière s'est déplacée. L'affrontement se fait entre ceux qui se défendent en défendant la nature et ceux qui, la détruisant, se détruisent. Cette fois, les hommes et les baleines sont dans le même camp. Et chaque baleine qui meurt nous lègue comme une prophétie l'image de notre propre mort.
Bon, quoi de mieux pour illustrer votre propos ? Vous nous l'avez déjà un peu expliqué, c'est la relation et même l'hybridation entre l'humain et l'animal qui est au cœur de ce nouveau roman. Et cette hybridation, elle va nécessiter un lexique particulier. C'est un peu votre spécialité d'inventer des lexiques, Laure Limongi. Alors, je prends un petit exemple. Donc, puisqu'effectivement, à la fin du livre, il y a un lexique. Et si on prend la lettre A, on peut tomber sur le mot aimable, qu'on connaît, mais qui a avec vous un nouveau sens, puisqu'il s'agit, je vous cite, de la façon dont les cétacés se désignent eux-mêmes. Les insectes les nomment quant à eux la douceur de la terre ou le cil souriant. De la même manière, si on va à la lettre P, on trouve périlleux, être humain, voire aussi menaçant suprême, également par métonymie utilisé au féminin pour désigner un harpon, une périlleuse. Alors, moi, ça me donne d'abord envie, avant toute chose, de vous demander si vous vivez vous-même avec des animaux non humains dans votre quotidien et quelle place ils ont, si c'est le cas.
Alors, je retrouve au pédale un petit peu pour dire que, justement, Vive la baleine de Chris Marker, et je crois que c'est Marco Ruspoli, je crois qu'ils sont deux à avoir fait ça, a servi aussi de base documentaire pour le livre. Et je recommande de le voir parce que c'est très, c'est un documentaire très, enfin, qui est vraiment très beau et très marquant. Alors, moi, j'ai fait le choix depuis quelques années, pas mal d'années maintenant, de ne pas avoir d'animaux dits de compagnie. J'en ai eu beaucoup. Enfin, quand j'étais petite, moi, je suis née en Corse. J'étais beaucoup à la campagne, donc il y avait des chiens, des chats. Alors, les chats, en général, rentraient chez nous plus que nous ne prenions des chats. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que ça allait. Mais bref, j'ai toujours été entourée. Et puis, évidemment, quand on allait au village, des animaux, enfin, tout ce qui est autour, les chèvres, etc., les ânes, tout ça. Et étant urbaine depuis, hélas, bien longtemps, j'ai eu beaucoup de chats aussi, et à un moment, ça m'est devenu un peu enfin, personnellement, après, je comprends très bien parce que j'adore ça, mais je trouvais ça un peu étrange d'assujettir comme ça ces êtres qui ne sont pas du tout faits pour rester en appartement, etc. Donc, ça fait quelques années que je n'ai plus d'animaux dits de compagnie, mais en revanche, que j'essaie d'être vraiment en observation des animaux sauvages. J'ai la chance de pouvoir être plus souvent au bord de la mer, notamment, et de pouvoir voilà, faire ça, enfin, voilà, regarder les oiseaux, les écureuils, tout ce que je peux voir autour de moi. L'année dernière, j'étais à la Villa Médicis à Rome et j'étais dans le jardin historique et j'ai vécu au milieu des paons. Je peux pas, pour les auditeurs et auditrices, je ne vais pas faire le cri du paon, mais je le fais très bien. Et voilà, et ça m'a aussi... Enfin, je me suis rendu compte à quel point pour moi c'était important cette posture d'observation... des tentatives de compréhension et d'essayer d'intervenir le moins possible, même si j'avoue que je donnais quand même un petit peu de grain au pan, parce que c'était difficile de ne pas le faire. Et pour revenir juste au vocabulaire, moi, c'est vrai que j'ai été lexicographe dans une vie antérieure, c'est-à-dire que j'ai écrit des définitions pour des dictionnaires, et c'est toujours quelque chose que j'aime faire. Enfin, c'est une fois qu'on est lexicographe, c'est comme éditeur, éditrice, on continue.
Et là, est-ce que vous avez beaucoup de dictionnaires chez vous ? Du dictionnaire.
J'en ai quelques-uns. Bah, j'ai surtout le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, hein, qui est quand même la chose la plus... Alors maintenant, j'en consulte beaucoup en ligne. Tout ce qui est littré, etc. Il y a quand même pas mal de ressources aussi pour les dictionnaires étrangers. C'est plus simple. Enfin, disons que je n'ai pas l'appartement qui me permette d'avoir trop de collections de dictionnaires. Mais l'idée, c'était aussi de montrer que... Mais ça, c'est quelque chose qu'on sait aussi dans tout ce qui est études postcoloniales, que justement, le langage... souvent, le langage qu'on utilise, c'est le langage du dominant, quoi. Et là, c'était l'idée d'expliquer que les cétacés ont un tout autre vocabulaire, que donc nous, on dit cétacés, mais qu'eux s'appellent aimables, et de donner accès à ces termes, qui sont traduits dans notre langue, donc on peut comprendre, mais qui sont toujours un peu en décalage par rapport à nos acceptions.
Et justement, cette manière de recréer des mots, ou d'en recréer la définition, mais aussi de recréer des êtres qui soient hybrides entre l'humain et l'animal, est-ce que c'est une manière de repenser ce lien-là entre l'humain-humain et l'humain-animal, ou plutôt l'animal-animal, en dépassant un peu le débat dont vous pointez un peu déjà les travers sur l'anthropomorphisme qu'on critique assez rapidement quand il s'agit de donner une âme ou un langage à des animaux.
Bah oui, en fait, je crois que le point de départ, c'est essayer de se dire, de considérer autrement, effectivement, la vie animale. Alors, on ne peut pas s'empêcher d'être dans l'autre... Enfin, de toute façon, on voit les choses avec nos yeux, on n'a pas accès exactement à leur culture. Il y a évidemment des choses qu'on interprète sans doute pas du tout de la bonne manière. Et donc c'est pour ça que je me suis voilà, mes récits sont évidemment très fantaisistes et c'est fait pour, mais à travers cette fantaisie, c'était l'idée de voir est-ce qu'on peut changer de regard, est-ce qu'on peut quand on voit des corneilles même dans un parc, se dire qu'elles sont en train de, je sais pas, de faire une pièce de théâtre, ou juste pour décaler un peu cette toute puissance du regard, cette omnipotence en fait, qui me semble être quand même à l'origine de bien des malheurs. Enfin, j'ai l'impression que l'actualité ne fait que renforcer cette crainte. Et aussi par rapport aux animaux qu'on utilise pour les manger. Moi, je ne suis pas végane en l'occurrence. Mais je pense qu'on arrivait vraiment à un rapport à ça, aux animaux qu'on mange, qui est devenu... dans une absence totale de sensibilité. Donc heureusement, il y a certaines associations qui montrent l'horreur des abattoirs. Par exemple, pour les poissons et les êtres marins, toutes les créatures marines, on n'a pas idée de l'ampleur de la destruction qui est colossale et du fait qu'aujourd'hui, les États favorisent des espèces d'immenses chalutiers qui vont non seulement pêcher indifféremment des espèces, donc en détruire, en rejeter mort des millions, mais en plus détruire l'écosystème marin. Donc pour moi, c'était une façon de poser ce regard, puisque la mer, c'est à la fois quelque chose de fascinant, mais quelque chose qui est totalement caché. Et c'est vrai qu'avec les vies urbaines, et beaucoup de gens sont urbains, on a complètement perdu ce lien d'observation, ce lien d'enchantement possible, ne serait-ce que considérer que la chose qu'on peut avoir dans son assiette a une vie sauvage, dans le meilleur des cas, parce qu'il y a beaucoup, hélas, de poissons d'élevage, mais voilà, et de comprendre le geste qui consiste à manger un être qui a été vivant, ce qui est pas ce qui est quelque chose de lourd quand même. Donc voilà, c'est un peu dans le sous-texte, mais c'était quand même beaucoup à l'origine de cette volonté de donner des œuvres à ces animaux marins.
Donc ce serait comme créer une sorte d'entre-deux qui permet de refaire un lien entre l'homme et l'animal, d'animaliser l'humain quelque part et d'humaniser l'animal. Mais c'est pas seulement une fantaisie littéraire, parce que comme vous venez déjà un peu de le dire, c'est extrêmement documenté.
Oui.
Historiquement, biologiquement, enfin, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que c'est une immersion, vous, qui vous a été nécessaire pour rentrer dans la peau d'une autre espèce? Comment ça s'est passé, ce processus-là?
Oui, moi, j'ai toujours besoin de faire pas mal de recherches. Tout simplement parce que c'est un plaisir de faire des recherches et de lire des livres et de voir des documentaires, comme celui dont on a entendu un petit bout tout à l'heure. Oui, c'est une nécessité. C'est vrai, pour revenir juste à cette question d'hybridation, il y avait aussi l'idée de battre en brèche cette notion de pureté. Enfin, parmi les problèmes qu'on peut avoir actuellement, il y a aussi cette peur. Enfin, tout est lié, en fait. La crainte environnementale, l'espèce de terreur envers un petit peu tout, qui fait que les gens se replient vers des unités d'identité de plus en plus petites. Ce qui est évidemment dangereux et totalement absurde d'un point de vue d'évolution de l'espèce, de la nature. Enfin, ça n'a absolument aucun fondement. Mais c'est logique quand on pense que c'est lié à la peur, évidemment. Mais voilà, donc l'effet d'hybrider, pour moi, c'était une façon d'aller encore plus loin dans l'acceptation d'une altérité. Et d'essayer de montrer que ça peut bien se passer. Parce que ça se passe plutôt bien dans le livre.
Oui, c'est assez livre. Réussi. On a vraiment un sentiment de grand tout de l'espèce vivante, en général, et de la mer et la terre. Enfin, on a vraiment un sentiment un peu mondial, quoi.
Bah, c'était vraiment l'idée. Et les recherches que j'ai faites m'ont vraiment conforté dans ce sens. Donc j'en ai fait pas mal, il y a beaucoup beaucoup de choses sur les cétacés, il y en a un peu moins sur les crustacés, donc j'ai beaucoup lu en anglais sur les crustacés, et effectivement j'avais besoin de créer ces histoires quand même avec, bon, moi je suis pas allée sous l'eau observer aussi, hein, donc avec notamment les témoignages des scientifiques, des plongeurs qui ont pu observer, bah, le peuple cétacé notamment, c'est vraiment fascinant. À quel point toutes les personnes qui vont les observer, qui écrivent, qui font des études, sont transformées par l'observation de ces animaux. J'ai croisé François Sarano là, il y a quelques jours à un festival à Paris, et j'ai lu ses livres, évidemment, parce que lui, c'est un plongeur depuis très longtemps et qui, chaque année, va voir la même famille de cachalots. Et lui, c'est vrai, il est habité quand il parle, quoi. Et on sent très bien qu'il a été... on a l'impression qu'il a été complètement transformé positivement par ce rapport avec les cachalots. Et c'est vrai que ça m'a permis de construire l'épaisseur des personnages.
Et vous, comment vous êtes transformée après cette expérience-là ?
Bah, c'était vraiment une expérience de grande joie. Donc je pense que c'est surtout ça, la transformation. Après, c'est vrai que dans l'écriture, il y a forcément des moments de doute quand on essaie d'écrire comme un cachalot ou comme un crustacé. J'ai beaucoup dessiné les espèces un peu à chaque fois comme une sorte de alors pas du tout pour montrer les dessins, mais plutôt comme une sorte d'exercice méditatif. Pour essayer de comprendre aussi anatomiquement comment ça fonctionne, comment ça se déplace. Puis il y a des questions d'échelle, évidemment, très différentes. Mais c'est vrai qu'il y a une grande transformation joyeuse avec ce livre. Oui.
Votre regard aussi a changé sur ce qui vous entoure ?
Je pense que c'était déjà à l'amorce du livre, mais évidemment, ça ne fait que s'accentuer. Et je pense que plus on observe, plus on lit, et plus il y a une ouverture qui se fait vers plein... Enfin, j'ai découvert plein de choses sur des espèces que je ne connaissais pas. Et, alors, ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, on a cette fameuse question des images par intelligence artificielle. Donc, on doute un petit peu maintenant quand on regarde des choses. Mais en fait, avec le monde sous-marin, ce qui est fou, c'est qu'en général, c'est quasiment toujours vrai. C'est-à-dire qu'il y a des choses tellement hallucinantes, notamment dans les abysses, que je vais toujours vérifier. Mais je me dis, mais ça existe, ce truc ? Et en fait, oui, ce truc existe. Et l'IA n'aurait jamais eu l'inventivité de créer quelque chose d'aussi beau et étonnant.
De la réalité qui dépasse la fiction.
Exactement.
La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Épisode 2, le langage des dauphins.
Il y a bien longtemps, en 2016...
On perça enfin le secret du langage des dauphins.
En fait, ce n'est pas tout à fait exact.
Mais c'est dur d'être exact en une seule phrase.
Disons qu'en 2016, il y eut d'abord un gros succès commercial avec un film sur les dauphins.
Sale dauphin ! Il m'échappera pas !
Laissez-le !
Bref.
De nombreux laboratoires de recherche,
espérant récupérer un peu de crédit aux yeux du grand public,
se fixèrent l'objectif de décrypter le langage des dauphins.
On se heurta vite à un problème de taille.
Professeur, on se heurte à un problème de taille.
Déjà ? Mais nous venons à peine de démarrer le programme.
Professeur, les dauphins n'ont pas vraiment de langage.
Il semblerait qu'il n'ait rien à dire de spécial.
Quel poisson !
Et on vient d'écouter un extrait de la fiction sonore de Benjamin Habitant, La préhistoire du futur. C'était l'épisode 2 sur le langage des dauphins. Et donc le monde marin inspire aussi d'autres personnes qui se jouent de science-fiction. Et votre roman, c'est intéressant parce que à la fois, quand on le lit, on est vraiment plongé dans cette utopie futuriste, en tout cas dans ce futur. Et en même temps, il y a énormément d'éléments qui nous rappellent au réel qu'on vit aujourd'hui. Donc, vous évoquez des enjeux contemporains comme le Covid, la crise climatique, et aussi plus techniques parfois, comme la judiciarisation de la nature, ou des personnalités comme Paul Watson de Sea Shepherd. Comment est-ce que la science-fiction, d'une certaine manière, ça vous permet de parler presque plus directement d'enjeux qu'on vit aujourd'hui ?
Oui, moi, ça faisait partie des idées de principe. Après, c'est une technique littéraire qui est ancienne. Au 18e, ça se pratiquait beaucoup au temps des Lumières, où à l'époque, c'était pas un décalage temporel, mais plutôt un décalage spatial, puisqu'on imaginait que soit un Indien venu des Amériques arrivait, observait la société occidentale en pointant les défauts et les absurdités. Donc là, oui, c'est effectivement un décalage. Enfin, elle l'explique, Violetta, dans sa préface, elle dit qu'elle essaye de nous aider, qu'elle essaye de pointer justement ces choses cette espèce de mur dans lequel l'humanité fonce et d'essayer de donner des clés, quelques clés d'amélioration qui passent évidemment par l'attention plus grande aux éléments naturels. Bon, après, il y a évidemment une petite chute du capitalisme, je dis ça comme ça. Hein.
Ça, en passant.
Ça marche toujours. Forcément, ça ferait du bien, c'est sûr. Et aussi... un changement de mentalité, puisqu'elle, enfin, c'est cette fameuse mentalité de propriétaire qui est, on s'en rend compte tous les jours quand on écoute les informations, qui est très préjudiciable aux vivants. Et je crois qu'elle cite, je cite, mais à force de faire Violetta, du coup, je parle de moi à la troisième personne, cette citation de Jacques Derrida qui dit « Une langue, ça n'appartient pas ». Effectivement, rien n'appartient vraiment. Les choses, on les traverse, on les comprend, on les met en valeur, on peut y apporter des choses, mais effectivement, c'est une façon d'essayer de voir d'autres possibles, oui.
Et Violetta, elle a parfois un discours assez militant. Est-ce que c'est aussi, est-ce que ça vous arrive dans vos autres romans, ou est-ce que spécifiquement, justement, celui-là, parce qu'il avait ce décalage de la science-fiction, ça permet aussi quelque part d'avoir un discours peut-être politique plus explicite.
C'est une très, très grande question, parce que je trouve que c'est toujours compliqué, cette question de l'engagement que j'ai, moi, dans la vie. Mais quand on essaie de la transposer en littérature ou en art, ça ne fait pas forcément des bonnes... Enfin, moi, en tout cas, je sais que je trouve ça compliqué. Compliqué, parce que parfois, on peut être justement tellement animé de choses... hyper incandescente que l'expression n'est pas à la hauteur de ce qu'on a envie de faire passer, donc ça peut être souvent compliqué. Et effectivement, je crois que là, ça m'a beaucoup aidée de passer par ce biais, ça a libéré effectivement des choses, ça m'a donné une liberté de ton très différente, même si dans d'autres livres, par exemple les deux livres que j'ai fait chez Grasset, le diptyque qui est sur la Corse, là, il y a des éléments qui sont différents, puisque ça parle de l'histoire de la Corse, l'histoire politique des années 70 à nos jours, donc plutôt de cette question du nationalisme, etc. Donc j'en parlais déjà, et dans la partie essai de ce diptyque, donc le diptyque s'appelle « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains et ton cœur à la forme d'une île », donc dans l'essai, j'avais fait des entretiens avec pas mal de personnes où les questions étaient aussi écologiques. Enfin, il se trouve que dans ce rapport à une identité insulaire, cette question de la protection du vivant est revenue de manière récurrente. Donc ça, dès ce livre-là, mais voilà, à nouveau, là, c'était plutôt un essai, c'était pas une fiction. Donc je pense que très clairement, l'anticipation m'a libérée de ce point de vue, oui.
Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a une dénonciation un peu du capitalisme, de la technophilie, et en même temps, ce qui permet aux êtres humains de s'en sortir face à cette crise climatique, c'est quand même la technique, et notamment la technique biologique. Donc les recherches sur l'ADN, du coup sur l'hybridation. Est-ce que pour vous, d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a pas vraiment de futur possible sans la technique ? Et si oui, est-ce que... quelle place elle a ? En tout cas, est-ce qu'elle est... c'est une manière de se dire, bon... Il y en aurait peut-être une partie qu'on peut garder.
C'est une question très complexe. Alors moi, clairement, j'avais absolument besoin de ce recours pour mon histoire. Sinon, je ne voyais pas trop comment créer des hybrides. Mais c'est une très grande question. Parce qu'en fait, on se rend compte que dès qu'on essaye de penser à ça, c'est très difficile d'avoir conscience des conséquences de chaque geste. Voilà, pour revenir même à la consommation alimentaire, parfois on est persuadé qu'on a bien fait, mais on n'a pas calculé que le transport machin, que truc. Y a plein de choses souvent qu'on oublie ou auxquelles on ne pense pas, ou on n'est juste pas informé, et dans la consommation en général. Donc sur cette question de la science, je pense que c'est encore plus complexe. Alors, au jour auquel on est aujourd'hui, pas au jour de Violetta, je pense qu'il y a des choses qui peuvent aider, qui peuvent vraiment aider à faire des modèles, à des projections, qui peuvent aussi peut-être aider, par exemple, l'agriculture vertueuse, en libérant de certains gestes, en évitant les pesticides par... alors, j'avais entendu ça, je crois, des analyses de sol très précises. Donc ça, c'est vraiment... C'est utile pour ça, parce que ça évite de mettre des produits chimiques partout. Mais après, le problème, c'est que voilà, la technique peut effectivement être très, très consommatrice d'énergie. Enfin, là, on le voit avec tout ce qui est intelligence artificielle. Moi, mes étudiants qui passent leur temps sur ChatGPT, je leur dis, bon, alors allez-y, mais quand même avec parcimonie, quoi. N'arrêtez pas de demander des tas de trucs en permanence parce que vous êtes en train de consommer l'eau d'un pays, quoi. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on est encore dans une société qui peine à essayer de penser aux conséquences de chaque geste, finalement. C'est très compliqué.
Est-ce que d'une certaine manière, ce ne serait pas penser les conséquences de chaque geste nous permettrait peut-être de retrouver, enfin de s'hybrider avec l'aimable en nous, sans forcément passer justement par ce biais technologique, enfin, on peut le voir aussi comme une métaphore.
Oui, complètement. Et puis, en fait, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas d'agiter le spectre, alors comment ils appellent ça, de la sobriété, qui serait une sorte
heureuse.
De renoncement. Voilà. Alors, heureusement, elle est heureuse. mais en fait, je crois que les gens ont peur de quelque chose qui est complètement fantasmé. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir moins recours en permanence à de la technologie, enfin, c'est aussi facteur d'épanouissement personnel. Enfin, il y a tout autre chose qui se crée. Moi, j'ai eu la chance. Moi, je suis née en 76 en Corse. Et au village, franchement, jusqu'au milieu des années 80, franchement, c'était le 19e siècle. Mais vraiment. On avait quasiment... L'électricité sautait tout le temps. Il n'y avait pas l'eau courante dans la maison. Et les gens qui étaient autour, c'était des gens... J'avais l'impression que c'était le siècle précédent. Alors c'était bizarre parce que moi j'habitais à Bastia la majeure partie du temps et dès qu'on allait au village, j'ai l'impression qu'on revenait en arrière. Donc moi j'ai côtoyé des bergers qui avaient deux paires de chaussures, voilà. Et c'était tout sauf un monde inquiétant. Enfin c'était des gens notamment. Enfin j'ai pas connu de philosophes plus aigus que ces bergers là par exemple. Et le problème c'est que comme la plupart des gens n'ont pas eu ce genre d'expérience, ils s'imaginent que renoncer à certaines choses ou justement prenant conscience de l'impact de chaque geste, ça veut dire se retrouver. Alors c'est comme l'expression « c'est le Moyen-Âge », c'est un Moyen-Âge fantasmé, ça allait très bien au Moyen-Âge en fait, si on regarde un peu les livres des historiens. Enfin, voilà, donc on se met des espèces de peur de manquer de choses, alors qu'en fait c'est juste autre chose, c'est une autre vie, c'est notre rapport à la temporalité et à l'espace. Je sais que par exemple quand je me suis renseignée sur les trajets à pied, de certains chemins qu'en voiture, qui prennent un temps fou, etc. En fait, ils allaient hyper vite parce que ce n'est pas les mêmes chemins et ce n'est pas du tout la même appréhension de l'espace. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu assez récemment de Michel Jean, qui est un auteur qui est un Innu. Et c'est un livre qui s'appelle Koukoum, où il parle de ça. C'est un auteur donc, québécois que j'ai rencontré à Rome l'année dernière. Et il parle de ça, son héroïne est une femme qui n'est pas indienne, qui n'est pas née indienne, mais qui devient indienne par le mariage, et qui, du coup, change de vie, quoi. Et au début, comment son corps doit s'habituer à ça, à la marche, à autre chose, et à quel point c'est comme ça que sa vie prend... Enfin, elle choisit cette vie, et cette vie l'a choisie aussi. Et elle s'épanouit dans cette vie-là.
Et là, vous revenez sur un temps plus ancien pour voir dans le futur. C'est un peu cette espèce de dynamique aussi de votre livre où à la fois, quand on le lit, on a l'impression d'être vraiment dans ce récit futuriste et en même temps, on lit une nouvelle cosmogonie du monde. Parce que finalement, vous racontez le récit des origines des aimables qui sont quelque part à moitié, ce récit est à moitié fait de l'histoire humaine qu'on connaît nous, à moitié fait de l'histoire des aimables qu'on découvre. Est-ce qu'il y a aussi cette nécessité, finalement, de, en écrivant le futur, de réécrire le passé pour ouvrir justement des nouveaux possibles, quoi?
Oui, sans doute. Après, c'était aussi lié à mes recherches sur les mammifères marins, et notamment les cachalots, les cétacés. Et en fait, il y a toute cette histoire de la sortie des eaux. Donc, je suis allée chercher dans la paléographie, paléologie, etc. Donc, leur ancêtre qui s'appelle Pakicetus. Donc, il y a toute cette histoire de sortie de l'eau, retour de l'eau. Enfin, bref, il y a plein de choses un peu étranges qui se passent. Et en lisant toutes ces histoires de leur espèce, ça m'a donné envie de créer ce récit des origines. Et voilà, et donc je me suis imaginé que comme ça, ils avaient aussi droit à une mythologie comme nous, on en a toutes et tous. Pourquoi ? Enfin, je suis quasiment persuadée que les cétacés ont une mythologie. Et qui, évidemment, est un petit peu empruntée à plein de récits, qui peuvent être des récits de peuples premiers. Enfin, je pense que mon imaginaire a dû faire un mélange de plein de choses que je connais. Et c'est une manière aussi de les ancrer, de leur donner une dimension historique aussi. Parce que ces grands animaux marins, en l'occurrence, ils ont des espérances de vie qui sont égales aux nôtres et sans doute des échelles culturelles égales aux nôtres. Il a été dit que sans doute pendant la période vraiment génocidaire de cette espèce, il y a sans doute eu des ruptures comme ça de transmission qui ont été faites. Donc c'est en pensant à tout ça que je me suis dit que moi j'avais vraiment envie de leur offrir vraiment quelque chose qui avait peut-être été abîmé par l'espèce humaine, quoi.
Different in the spring, I know you're a seasonal beast, like the starfish that drift in with the tide. So until your blood runs to meet the next full moon, my own.
il est peut-être temps de rentrer dans le texte de cette invention de la mer. Alors Limongi, si vous êtes d'accord de nous lire un petit extrait. Nous, on a été un petit peu retenus par un moment particulier du livre qui se trouve dans une note de bas de page où il est question d'un rouge à lèvres.
J'avais peut-être 5 ou 6 ans quand mon arrière-grand-mère m'a tendu un tube de rouge à lèvres qu'elle venait de retrouver dans un tiroir. Quand je l'ai ouvert, une odeur animale, puissante, mais pas désagréable, presque réconfortante, s'en est enfuie. Impatiente, je me suis approchée du grand miroir qui recouvrait un mur du salon et j'en ai mis sur mes lèvres, imitant le geste de ma mère épié tous les matins. C'était un peu rance, très gras et couvrant. J'ai dû dire que ça sentait fort, car l'une des femmes présentes a précisé que c'était un rouge à la graisse de baleine et qu'hélas, on n'en faisait plus de nos jours. C'est dommage, ça tenait bien. Je suis restée interdite. Je pensais qu'elles se moquaient de moi avec cette histoire de graisse de baleine, mais non, elles étaient sérieuses.
Bon, alors Limoges, on a forcément envie de vous demander s'il s'agit d'un souvenir personnel.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
Ça m'est vraiment arrivé.
Et de manière générale, bon, les notes prennent une très grosse place quand même dans ce livre, notamment parce qu'il est très documenté, comme on l'a dit tout à l'heure, et en plus puisqu'il est agrémenté d'anecdotes et de réflexions personnelles. Est-ce que ces notes-là, de bas de page, c'est une sorte pour vous d'exutoire ou une manière de peut-être de reprendre la parole que vous avez prêtée à vos personnages, puisque voilà, vous écrivez sous le nom de trois auteurs chimères dans ce livre. Est-ce que c'est une manière pour vous de reprendre la parole et de dire là, c'est Laure Limongi qui parle?
Alors, c'est pas au fil. Là, c'est Violetta qui est censée parler. Ah oui, non, c'est censé être son ancêtre. C'est censé être Yuma Benedetti, donc, qui est un personnage d'un livre précédent. En fait, les notes de bas de page, elles sont juste dans les textes de Violetta. Donc, dans l'introduction et dans les postfaces. Les textes chimères, donc de Gina de Galen et de Ménip Tzalé, il y a juste une exception pour Ménip, parce qu'il y a le terme mégalope qui n'était pas très clair, qui est explicité. Mais sinon, il n'y a pas de notes de bas de page. C'est aussi une façon de mimer une écriture de commentaire, une écriture universitaire, même si c'est très lisible pour une écriture universitaire. En tout cas, de mimer ce rapport aux commentaires qu'on a sur sa propre parole, qui soit est étayé de références, parce qu'il y a pas mal de références, et soit effectivement fait des petites digressions. Alors, c'est pas forcément pour moi revenir dans le texte, parce que finalement, je suis un peu dans tous ces personnages chimères, diffractés de quelques manières, mais c'est le cas dans tous les livres, finalement. Mais ça m'intéressait donc à la fois de mimer ce texte un peu, on va dire, savant, si je puis dire, et en même temps de jouer un peu, de mettre de l'humour dans ces notes, parce que des fois, c'est des vraies références, des fois, c'est des livres qui datent de 2120, donc on se doute bien qu'elles ne sont pas vraies, parfois, il y a des digressions comme ça, des souvenirs. Là, en l'occurrence, cette note, c'était surtout pour faire un lien un peu cosmologique, comme je disais, entre plusieurs livres, et de donner une filiation à Violetta Benedetti Ogundibe, parce qu'en l'occurrence, elle écrit depuis Galère, en Corse, et donc elle a quelque chose un peu de ma généalogie.
On y reviendra à cette Corse. Et il y a une autre particularité, à part, on en a déjà un peu parlé, cette question du lexique, dont vous nous avez parlé de votre amour des mots et de leur définition, mais cette fois-ci, il y a un lexique un peu particulier aussi, c'est le lexique des odeurs, que vous avez retravaillé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu à quoi il sert ce lexique et comment, à quoi vous, ça vous sert aussi de redéfinir des mots qui nous sont communs?
Alors, j'ai imaginé que dans la partie crustacée, donc comme je disais, j'ai fait pas mal de recherches pour inventer ces formes littéraires, et en faisant des recherches sur les crustacés, j'ai découvert que pas mal de crabes avaient un sens de l'olfaction très très développé. Et donc, je me suis dit, ben tiens, ils vont faire des poèmes olfactifs. Et donc, en pensant à ça, je me suis dit, bon, ben, c'est une très bonne idée, mais comment je fais pour retranscrire des poèmes olfactifs? Je n'allais pas me mettre à créer des parfums. Donc,
vous le faites presque.
Ben, je le fais presque, c'est ça. Alors, c'est l'idée. Mais je dirais, il fallait bien donner une forme. Donc, la forme que Violetta, parce que c'est elle qui traduit, trouve, c'est de mettre sur la page de gauche une retranscription qui ressemble à un poème. Voilà, donc c'est dans notre langue, quelque chose qui peut ressembler à un poème. Et en page de droite, pour essayer de nous donner l'idée de la forme originale de ce poème olfactif, il y a une composition par odeur, voilà, qui est donc sur la même forme qu'on compose un parfum. Donc effectivement, avec les notes de fond, les notes de cœur, les notes de tête. C'est un peu une composition, d'ailleurs, Aline Pénito, on va sans doute en reparler, avec qui je travaille, qui est compositrice, va sans doute en faire quelque chose, parce que c'est vrai que ça ressemble aussi à une partition, parce que cette idée de note de fond, c'est la basse, en fait, c'est ce qui structure. On peut l'interpréter avec à la fois du percussif et puis des accords et des notes graves. Les notes de cœur, c'est ce qui est médian, donc ça va vraiment être le corps même, tout ce qui donne de l'épaisseur, donc ça peut être de l'ordre de toute l'harmonique finalement, toutes les variations diverses harmoniques. Et les notes de tête, ça va être des petites mélodies ou des appoggiatures, ça va être beaucoup plus vivace dans un parfum. La note de tête, quand on pchit par exemple, ça arrive tout de suite. Ensuite, ce qui va rester le plus longtemps, c'est la note de cœur, et la note de fond, c'est vraiment ce qui structure et qui sera là à la toute fin. Et donc, j'ai imaginé de donner ces ambiances olfactives, comme ça, en page de droite, sous cette forme-là. Et donc, il faut vraiment le lire. C'est pour ça qu'il y a des notes de fond qui reviennent, parce que ce qui est structurant est forcément assez différent des notes de tête, etc. Et le lexique était là pour que les personnes... Parce que c'est un monde très précis, hein, c'est un monde très chimique, la parfumerie et tout ça. Donc les personnes qui voulaient savoir un petit peu plus pourquoi ces odeurs, ces parfums étaient là, y a l'explication. Mais on n'est pas obligé de le lire, mais il faut être un petit peu fan de lexique comme moi.
Ouais, c'est un poème en soi déjà. Et du coup, ça donne un roman qui est presque à lire avec les cinq sens. Et il me semble que vous avez commencé à l'écrire à un moment où les sens étaient un peu bridés justement. Vous avez commencé pendant le Covid, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça donne comme cadre de travail, une ambiance comme ça? Est-ce que ça a impacté ou motivé même le début de l'écriture?
Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de phase anosmique, donc je n'ai pas perdu l'odorat pendant le... J'ai quand même une altération de l'odorat pendant le premier que j'ai eu, je crois. Mais heureusement, je ne l'ai pas perdu pendant quelques mois, comme pas mal de gens que je connais. Alors, l'idée de mettre plus de sensations différentes du tout visuel, ça fait longtemps, mais je pense que dans ce livre-là, c'est vraiment... le curseur a été poussé assez loin. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais essayé de remettre plus de toucher et plus d'olfaction. Alors, moi, ça a vraiment commencé pendant l'été 2020. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on était, en Corse, à Providence. Donc c'est un lieu qui est un petit peu au-dessus de la mer, donc on voit beaucoup la mer, mais c'est à 600 mètres. Et on était vraiment... on était en extérieur tout le temps, donc on n'était pas inquiet, enfin on n'était pas... on était confinés à l'extérieur, si je puis dire. Mais en tout cas, c'était évidemment une question lancinante, cette question du devenir. Mais je crois que le fait d'être dans cette étrange situation de... à la fois ça qui se passait dans le monde... Et de nous, dans ce moment particulier, on en était finalement... en fait, tout avait l'air normal, puisque comme on était en pleine campagne, on ne voyait pas du tout ce qui se passait autour. C'était cette ambivalence qui a sans doute aussi donné à la fois l'aspect conscient du texte et en même temps son aspect quand même positif et joyeux et dans la vie, quoi.
Et au contraire, la suite de l'écriture s'est faite en résidence dans un lycée, c'est ça?
Oui, alors c'est une résidence Île-de-France. Alors, le livre a vraiment commencé à Providence. Ensuite, j'ai fait cette résidence Île-de-France avec vraiment le titre pour bannière, donc l'invention de la mer. C'était au lycée Mozart du Blanc-Mesnil, avec des secondes que je cite à la fin. Je cite tous les prénoms des secondes à la fin du livre. Et là, c'était surtout pour leur partager cette envie de réinventer la mer tous ensemble. Alors, comme cette résidence a eu lieu pendant le Covid, à nouveau, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que je voulais les emmener à la mer. Évidemment, on n'a jamais réussi parce que ça ne marchait pas du tout. Le maximum qu'on a réussi à faire, c'est d'aller à l'aquarium de la Porte Dorée, qui est un aquarium tropical. Bon, c'est déjà pas mal. Juste dans le contexte, c'était pas si mal. Et j'ai aussi travaillé avec l'association Bloom, donc il y a eu un océanographe, Augustin, qui est venu présenter, enfin, qui a parlé du plancton, notamment aux élèves. Et donc, c'était voir comment elles et eux aussi pouvaient se projeter, pouvaient penser cet élément. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai pas que travaillé avec le prof de français, j'ai travaillé avec l'ensemble de la communauté pédagogique, donc notamment la prof de SVT, le prof d'histoire géo et le prof de français, la responsable du CDI. Donc ça permettait d'aborder des points très différents. Donc là, je les ai surtout amenés, eux, à écrire. C'était une façon de partager une communauté de pensée sur le sujet. Mais ce n'était pas une période pendant laquelle j'ai vraiment... Après, je me suis un peu isolée pour avancer mon... Après, si j'y repense, je pense que leur récit était, hélas, souvent assez sombre. Bon, c'était sans doute lié à la période, hein, qui n'était quand même pas... on avait des masques, des fois, on était obligé de repousser les trucs. Enfin, c'était un peu compliqué. Et ils avaient du mal à être dans une forme de fantaisie, d'innocence que je projetais étrangement peut-être sur eux. Même en seconde, on est assez grand, mais moi, il me semble que si je remonte à ce moment-là, il y avait plus de volonté de voir le futur en positif. Et là, j'étais assez frappée par quelque chose de l'ordre d'une résignation un peu tragique, quoi. Ce qui m'a peut-être poussé en contrepoint à essayer de faire quelque chose, au contraire, de très lumineux et en espérant que ça crée un futur lumineux aussi, quoi.
Donc, ils ont laissé une trace quand même dans le roman tel qu'on le lit aujourd'hui, cette expérience
non,
de résidence.
Pas vraiment. Non, parce que j'ai surtout tourné ça vers eux. Donc, on a travaillé ensemble, je les ai fait écrire, on a parlé de texte, on a parlé de Moby Dick, etc. Bah, la trace, c'était d'essayer de partager cette pensée ensemble. Mais voilà, en tout cas, leur énergie est évidemment présente.
Et justement, donc vous naviguez un peu entre ce qui se crée là au quotidien, notamment quand vous êtes en résidence, mais aussi avec le monde tel que vous le traversez habituellement. Et dans votre livre, il y a l'évocation comme ça d'un temps comme il va et d'un temps des poètes. Est-ce que vous avez l'impression de naviguer vous aussi entre ces deux temps-là, parfois, entre le temps du quotidien et celui de la création, peut-être, de la fantaisie de...
Bah, je pense que tout créateur, toute créatrice ressent ça, effectivement, avec la conscience quand même du fait que c'est bien de lier les deux. Enfin, comment dire ça ? Il ne faut pas mettre sur un piédestal pour autant le temps de la création. Ce qui est important, par exemple, la résidence Île-de-France, évidemment que ça m'a servi parce que ça m'a donné du temps pour écrire. Après, quand on fait une résidence, on finit par faire pas forcément ce qu'on cherchait au départ. Justement, je m'étais dit, tiens, peut-être qu'il va y avoir des pistes. Puis finalement, non, je me suis mise en contrepoint. Mais justement, c'est à ça que ça a servi.
Ça, c'est aussi création, oui.
Exactement. Et ce qui est important de dire, c'est que le temps de la création, enfin, en tout cas, moi, tel que je le pratique, il y a des phases où j'ai besoin de beaucoup de concentration. Donc finalement, je n'ai pas besoin de grand-chose. Hein, je m'enferme, je me mets dans mon coin.
La sobriété
un peu,
heureuse.
Voilà, un peu comme un crabe qui va se mettre dans le sable, comme ça, comme Ménip, un moment, il fait sa détox. Voilà, moi, j'ai besoin juste de couper. Enfin, en tout cas, pour trouver des idées comme celle de ce livre-là, clairement, il y a des phases où il faut être dans ce monde. Donc le créer, y naviguer pendant quelques jours, et de fait, se couper un peu, je ne sais pas, des réseaux sociaux, des mails, que sais-je, enfin, des choses vraiment qui vont déconcentrer. Tout simplement, qui vont être une perturbation de l'imprégnation qu'on a de ce... Mais finalement, c'est pas complètement s'évader. Enfin, en tout cas, le quotidien, l'écriture, ça reste un geste qui est aussi dans le quotidien, qui est dans le corps, qui est dans l'action, et qui n'est pas du tout éthéré, qui n'est pas du tout quelque chose... Il n'y a pas une muse tous les matins qui va sonner à la porte pour livrer un poème, enfin voilà. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est à la fois vraiment ancré dans un travail, c'est pas sale de le dire, hein. Le poème, c'est le faire, hein, c'est la poésie, c'est ça. Mais en même temps, il ne faut pas se laisser complètement agiter par des éléments extérieurs. Mais c'est un problème qui n'est pas que celui des créateurs. Je pense que toutes et tous, dans plein de boulots, on devient complètement... assassiné par les réunions et les mails, quoi. Et je crois que ça n'aide aucune profession à la concentration. Donc voilà, le travail de l'écriture, il est un petit peu ça, peut-être un peu plus fort. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de moments où on arrive à se recentrer sur les univers concrets. Mais il y a toujours un lien. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est important de dire que l'écrivain, l'écrivaine, le poète, la poète est dans le monde et dans le quotidien aussi.
Et bien justement, sur votre conseil, on va... écoutez un morceau de Violeta Parra.
« Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve.
Et nous sommes de retour sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8 en présence de Laure Limongi pour discuter avec elle de son dernier roman L'invention de la mer, mais également d'une performance, parce qu'on a la chance à Grenoble de vous avoir à jouer pour la première fois.
Ça va être la deuxième, mais c'est le tout début encore.
Ah, bon, ça va, c'est presque pareil. Pour la deuxième fois, du coup, une performance que vous avez créée avec Aline Pénito. Est-ce que vous pouvez, un peu de la même manière qu'au début, pouvoir teaser un peu le spectacle sans trop en dire aux auditeurs, auditrices ?
Alors Aline Pénito, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est une compositrice navigatrice. Elle a traversé le pôle, voilà, et donc en tant que compositrice, elle travaille avec des sons maritimes et même des sons sous-marins, puisqu'elle a un hydrophone, et donc elle va sur son bateau récupérer les sons et qu'elle compose à partir de ces sons. Et justement, donc Aline, quand le texte était quasiment édité, enfin je l'ai contactée en lui proposant en quelque sorte de composer les originaux du texte. C'est-à-dire qu'en fait, le livre est censé être la traduction des hybrides de ces langues marines. Et donc elle, à partir des sons qu'elle a captés en mer et qu'elle capte en mer, elle compose l'original en quelque sorte. On continue à...
La bande originale.
Voilà, elle essaie de penser qu'est-ce que ça serait la version originale de ces textes. Et donc dans la forme qu'on propose, j'ai oublié de dire qu'Aline était aussi productrice radio. Elle a fait beaucoup de choses pour France Culture. Voilà, donc vous pouvez, notamment si vous tapez son nom, vous pouvez tomber sur plein de choses qu'elle a fait, beaucoup en rapport avec la mer. Et donc le spectacle se présente sous la forme d'une fausse émission de radio enregistrée en direct et en public.
Tiens.
Voilà. Et moi j'incarne Violetta Benedetti Ogundipe. Donc il y a des voilà, elle me pose des questions sur le livre, j'y réponds en tant que Violetta Benedetti Ogundipe. Et il y a des phases de lecture où elle passe donc ces compositions qui sont supposées être les originaux des textes. Et donc ce qui fait qu'on est dans une ambiance très maritime, on entend ces sons qui sont vraiment capturés par elle dans les fonds marins. Et voilà, c'est un voyage dans l'espace et dans le temps, quoi.
Est-ce que cette forme-là, vous y aviez déjà songé pendant l'écriture du livre, ou c'est plutôt à la fin que ça s'est révélé ?
J'avais fait au tout début une sorte de performance, mais vraiment sans un peu de sortie de résidence, quoi, donc très très brute, où je posais des questions effectivement à des gens qui jouaient ces chimères, enfin ces proto-chimères, hein, puisque rien n'était vraiment écrit, donc c'était un peu le tout début. Mais là, la forme, c'est aussi Aline. Enfin voilà, moi je lui ai soumis le texte et c'est vraiment elle qui a proposé cette forme d'émission comme ça. Voilà, donc après en parlant toutes les deux, on a échafaudé la forme et on commence à la mettre en place. Ouais.
Est-ce que c'est votre fascination commune? Parce que donc vous venez de Corse, elle a grandi sur une autre côte, la côte normande. Est-ce que c'est votre fascination commune pour la mer qui a fait que vous vous êtes rencontrés, ou est-ce que c'est vous qui êtes allé la chercher, sachant, connaissant son travail? Comment s'est fait cette rencontre-là?
En l'occurrence, elle était en Corse. Je l'ai rencontrée en Corse, à Providence. On s'est vu très rapidement parce que moi, j'arrivais quand elle partait. Donc, on a eu le temps un peu de discuter. Du coup, j'ai regardé son travail. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et voilà, quand j'ai signé au Tripod et que le livre était sur le point d'être édité, j'ai pensé à lui envoyer en me disant, tiens, ça l'intéressera peut-être de faire cette collaboration.
Alors, cette émission touche à sa fin. Et avant de partir, on avait envie de vous lire quelque chose et de vous poser une question.
Traverser les espaces, traverser votre vie comme une invitée polie, en ne détruisant rien sur votre passage, voire en ayant apporté un petit cadeau à la maîtresse de maison. Un haïku, une nouvelle technique de permaculture, un nouvel outil, que sais-je.
Alors vous, Laure Limongi, quel est le cadeau que vous donnez à la maîtresse de maison?
Grande question. Je pense que j'essaie d'écrire et de créer des choses pour ça, pour essayer de laisser des jalons, j'espère pas trop polluants. Et j'espère qu'ils puissent peut-être ouvrir d'autres perspectives imaginaires pour d'autres personnes. Pour moi, la place du lecteur et de la lectrice est très importante dans les livres, enfin dans plein d'autres livres, mais dans celui-là en particulier. Donc l'idée que chacun et chacune imagine comme il et elle veut ses chimères.
Merci Laure Limongi.
Merci.
Et puis
on
rappelle quand même les rendez-vous que nous avons avec vous dans le cadre du printemps du livre, du coup, qui dure jusqu'au 6 avril. Donc certainement vous avez des rencontres littéraires programmées.
Oui, alors j'ai pas tout en tête, il faut regarder sur le site.
Voilà, donc c'est foisonnant, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de rencontres, oui. Beaucoup de lectures, et bien sûr des spectacles, des performances, dont la vôtre avec Aline Pénito qui aura lieu du coup à la Bobine à 14h30 samedi.
C'est ça.
Vous pourrez donc, on vous invite à nous rejoindre évidemment, et pour ceux qui ne pourraient pas, vous pourrez aussi l'écouter sur les ondes de Radio Campus. Ainsi qu'une rencontre avec Grégoire Bouillet à 17h autour de son dernier livre, Le syndrome de l'orangerie. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt. Bonne soirée à tous et à toutes et on espère à samedi.
Merci.
Et c'était quoi? L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie! C'est quoi? L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble!
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.